Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. C'est un passage qui met en scène le prophète Élisée. Et nous allons lire une première partie de ce passage, un peu pour planter le décor, et nous allons continuer avec une deuxième partie de passage que nous allons un peu plus décortiquer. Alors c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» L'un de ses officiers lui répondit « Personne, monseigneur le roi, c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il se trouve, pour que je puisse le faire saisir. » On vint lui annoncer « Il est à Dothan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Nous arrêtons là la première partie de cette histoire. Tout ça pour un petit peu planter le décor. Vous l'avez sûrement entendu dans le premier verset, il y a une guerre entre la Syrie et Israël. La Syrie, c'est le royaume qui est au nord d'Israël. Alors, vous savez, Israël, c'est le royaume du nord qui est au nord du royaume de Juda. Les deux royaumes frères et à la fois ennemis. Et donc la Syrie est au nord d'Israël et la Syrie ne fait pas une guerre comme on les connaît aujourd'hui, mais fait des razzias, c'est-à-dire des passages éclairs sur le territoire d'Israël où ils pillent, ils brûlent les villages et puis ils repartent. Et bien sûr, ça pose un certain nombre de problèmes pour les Israélites. Ensuite, dans ce passage, on voit qu'il y a une proximité entre le prophète Élisée et le roi, qui s'appelle le roi Joram. On voit que le prophète va voir le roi et va l'informer de ce que va faire le roi de Syrie. Alors, à la fois une proximité et à la fois aussi, il y a des problèmes dans les relations entre les prophètes et les souverains en Israël, puisque souvent, les prophètes ne sont pas vraiment d'accord avec ce que font les souverains, qui sont souvent infidèles, surtout dans le royaume du Nord, dans le royaume d'Israël. Donc là, mais n'empêche que là, on voit plutôt une proximité entre Élisée et le roi Joram. On voit aussi que Élisée a une puissance spéciale. C'est vrai qu'on est au temps des prophètes thaumaturges, les prophètes qui font des miracles, avec Élie et Élisée. Élisée arrive même à savoir ce qui se dit dans la chambre à coucher du roi de Syrie, alors qu'il n'est pas du tout en Syrie. Donc vraiment, on voit que Élisée a des révélations spéciales de la part du Seigneur et qu'il a une vraie puissance. Et enfin, dernière remarque, on voit que l'enjeu dans cette histoire, c'est l'avenir du peuple de Dieu contre le reste du monde. Et là, le reste du monde, c'est la Syrie. Des païens s'attaquent au peuple de Dieu. Est-ce que Dieu va laisser faire cela? Nous reprenons la lecture de ce passage à partir du verset 15. Donc on est toujours dans 2 Rois 6, à partir du verset 15. Donc je vous rappelle, les Syriens encerclent le village dans lequel se trouve Élisée pour le capturer. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître « Ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Alors l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée « Dois-je les tuer, mon père ?»« Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacres-tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc ? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. Alors, le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leurs incursions sur le territoire d'Israël. Alors une fois qu'on a lu ce passage, il faut faire quelques observations préliminaires sur cette deuxième partie de passage. Alors dès la première observation, c'est que on a affaire à quatre personnages. Élisée, on va dire le héros de l'histoire. Les Syriens, que je regroupe en un seul personnage, puisque en fait c'est la troupe syrienne dans son ensemble qui est traitée. On a le serviteur d'Élisée. Et enfin, on a Yoram, le roi d'Israël. Ensuite, dans ce passage, nous avons deux questions et trois prières qui apparaissent. Les deux questions qui sont dans ce passage, c'est les deux questions, une qui est prononcée par le serviteur d'Élisée, au verset 15, qui demande à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on est encerclé par tout le monde ? Et à la fin du passage, on a la question du roi d'Israël à Élisée, qui a à sa disposition une troupe entière de Syriens prisonnières, et il lui demande « Est-ce que je dois les tuer ?» Et là, on voit que les deux ont ce point commun, ils ne savent pas comment gérer la situation. Et on a trois prières de la part d'Élisée. Au verset 17, il prie pour que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur. Au verset 18, il prie pour que l'Éternel ferme les yeux des Syriens, c'est-à-dire les frappe d'aveuglement. Et enfin, au verset 20, il prie pour que l'Éternel ouvre les yeux des Syriens. Donc là, on a quelque chose qui a à voir avec la vue. Ensuite, on peut remarquer que dans les versets 16 et 17, c'est-à-dire le récit du serviteur qui panique et puis après qui voit finalement une grande armée céleste autour d'Élisée, on voit que ce récit ne sert pas à grand chose dans le grand récit qui, je vous rappelle, c'est finalement les Syriens font des incursions sur le territoire d'Israël, il faut que ça s'arrête et on va dire Élisée leur fait un petit tour de magie pour que, au final, ceux qui viennent pour le faire prisonnier soient eux-mêmes prisonniers. Voilà. Mais alors, l'histoire du serviteur n'a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec ce récit. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse ce que ça vient faire dans le récit. Ensuite, on peut aussi remarquer que la manœuvre avec l'armée égyptienne, ce que j'ai appelé un peu le petit tour de magie, ressemble aussi à de l'hypnose collective. C'est assez bizarre. Ils arrivent tous pour arrêter Élie, et Élie, c'est comme s'ils avaient hypnotisé. C'est-à-dire que dans le texte, on nous montre que ils sont frappés d'aveuglement, mais finalement ils ne sont pas frappés d'aveuglement puisqu'ils vont du village dans lequel habitait Élisée jusqu'à Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Donc voilà, ils ont bien les yeux ouverts, mais c'est comme si finalement leur cerveau marchait beaucoup moins bien, comme s'ils étaient sous contrôle d'Élysée. Donc voilà, cette manœuvre d'Élysée ressemble un petit peu à de l'hypnose collective. Et enfin, on peut voir que le traitement des soldats, quand ils sont à Samarie, est surprenant. Voilà, le roi Yoram, voyant des soldats ennemis prisonniers et en voyant autant finalement, demande à Élysée, mais est-ce que je dois les tuer, hein? Voilà, je ne vais pas avoir autant de prisonniers chez moi. Et là, Élysée leur dit, bah non, lui dit, mais non, tu vas leur donner à manger, tu vas leur donner un repas. Et apparemment, même si c'est surprenant de leur donner un repas à ses ennemis au lieu de les tuer, apparemment, en leur donnant un repas et en les renvoyant chez eux, cela contribue à faire cesser les incursions syriennes sur le territoire d'Israël. Donc, efficace. Une fois qu'on a fait ces quelques observations préliminaires, on peut remarquer que dans ce passage, nous avons trois points de vue, un petit peu comme dans un film, où il y a un même événement et le réalisateur filmait selon les points de vue de trois personnes différentes. Alors le premier point de vue qu'on peut avoir dans ce passage, c'est le point de vue des Syriens. Alors imaginez que vous êtes les Syriens. Au début, vous êtes sûr que Élysée est à votre merci, vous encerclez le village dans lequel il est, mais vous vous réveillez d'un état léthargique et vous vous apercevez que vous êtes dans la gueule du loup, en son pouvoir, à Samarie, et c'est en fait celui que vous veniez éliminer qui vous gracie après vous avoir fait donner un festin. Alors là, vous êtes Syrien et vous avez assisté à un vrai retournement de situation. Ça, c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, c'est le point de vue du serviteur. Vous vous levez de bon matin, et là, vous voyez que la ville est totalement cernée, et que vous allez bientôt être au chômage, puisqu'ils viennent arrêter votre maître, ou même subir le châtiment de votre maître. Alors là, bien sûr, vous paniquez, vous croyez que tout est perdu, mais votre maître vous offre un petit spectacle en 3D. Et vous vous apercevez qu'en fait, il y a une autre armée, beaucoup plus forte que celle de Syrie, qui protège votre maître, et donc vous-même. Vous vous détendez donc, et vous assistez après à une scène encore plus hallucinante, l'armée syrienne qui suit votre maître tel un troupeau de moutons. Et là, dernier point de vue, celui du roi d'Israël. Vous gérez les affaires de votre pays et on vous apprend que l'armée syrienne s'approche de vous. Vous paniquez, vous fermez la ville, vous convoquez vos troupes, mais on vous dit aussitôt qu'Élysée a fait prisonnier tous ses soldats. Alors en fin de compte, vous vous retrouvez comme un imbécile, avec une division militaire entière à votre merci, sans savoir quoi faire. Vous vous tournez donc naturellement vers l'auteur de ce prodige, et vous vous retrouvez à donner un banquet à une armée ennemie. Vous percevez tout de suite le côté comique de ces points de vue, de cette situation, et vous remarquez que finalement, les choses sont là pour que chacun panique et que chacun comprenne quelque chose de la part du Seigneur. Mais on va faire un petit focus sur le prophète Élysée. Élysée, c'est vraiment un très grand prophète et il est au centre du récit. C'est lui qui mène la danse, hein, c'est lui qui contrôle le jeu, qui a toutes les cartes en main. Il fait des choses très puissantes. Des choses puissantes instantanément. Dès qu'il prie Dieu, Dieu fait ce qu'il lui demande. Et s'il fait ce qu'il lui demande, c'est surtout parce que Élysée accomplit tout au nom de Dieu. Il est vraiment son serviteur. Et il ne fait pas ça pour s'amuser, hein, le truc de l'armée syrienne. Il fait ça pour servir Dieu, son maître. Et c'est pour ça que Dieu fait ce qu'il lui dit. Son nom, Élisée, ça veut dire Dieu est salut. Et ça révèle le rôle qu'il a. Il fait de grandes choses et va décider du remplacement des rois de Juda, d'Israël et de Syrie. Ouais, c'est la mission que Dieu décrit à Élie, quand il dit va oindre Élisée, c'est lui qui va te remplacer, c'est lui qui va mettre un nouveau roi en Juda, en Israël et en Syrie. Et voilà, c'est vraiment un prophète très particulier, Élisée. Ensuite, par rapport à Élisée, on voit qu'il a une mission particulière avec Israël, avec son roi et avec les autres peuples. Il est vraiment là pour ramener Israël dans le droit chemin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël, le royaume du Nord, est un royaume traditionnellement infidèle à l'Éternel, alors que le royaume du Sud, le royaume de Juda, s'en sort un petit peu mieux. Et donc voilà, Élisée va régulièrement aller voir le roi d'Israël pour lui demander de se repentir. Il va aussi lui donner des conseils. Et puis on voit aussi qu'il a des rapports aussi particuliers avec la Syrie, puisque on connaît tous l'épisode de Naaman, le général syrien qui est guéri de la lèpre par Élisée, ce qui va se passer un petit peu plus tard. Et donc là, on voit quand même qu'il a aussi une mission avec le peuple syrien. L'armée syrienne a dû comprendre quelque chose de la part du Seigneur aussi par cet épisode. Et enfin, Élisée montre dans ce passage que l'Éternel est le maître. Le maître, c'est pas le roi d'Israël. Le maître, c'est pas le roi de Syrie, même s'il a l'air d'avoir une armée puissante. Le véritable maître de l'histoire, c'est l'Éternel. Et c'est avec ce grand retournement de situation qu'on le voit très bien. Et donc, avec ces points de vue, on voit que finalement, il y a trois niveaux de perception de la réalité. Le passage qui montre le dessous des cartes aux serviteurs, c'est-à-dire qu'au départ, il ne voit rien, et une fois que l'Éternel lui ouvre les yeux, il voit toute l'armée céleste. Cet épisode est là pour que lui et nous comprenions qu'il y a plusieurs niveaux de perception. Le premier niveau de perception, c'est le niveau terrestre, le niveau rationnel, c'est-à-dire l'effet et rien que l'effet. À partir de cela, on peut faire des extrapolations logiques, on peut anticiper et dire « il est hautement probable que la suite des événements sera comme ceci ou comme cela ». C'est la réaction du serviteur d'Élisée, qui voit toute l'armée syrienne encercler le village et se dit « ça y est, on est perdu ». Mais c'est aussi celle du roi de Syrie. L'ennemi sait à l'avance ce que je vais faire, il y a donc un traître parmi mes collaborateurs. Ça, c'est le premier niveau, un niveau logique, un niveau rationnel. Le deuxième niveau, c'est le niveau céleste, le niveau spirituel. Ce sont des faits qu'on ne perçoit pas de prime abord. On peut quand même les deviner, on peut quand même les ressentir, mais il y a surtout besoin d'une révélation spéciale. Cette réalité n'est pas soumise aux mêmes lois, aux mêmes limites que la réalité terrestre. C'est la réalité de Dieu lui-même. Bien sûr, celui qui a accès à cette réalité dans notre récit, c'est le prophète Élisée. Et nous pouvons remarquer que ça lui donne de nombreuses longueurs d'avance pour gérer les choses. Mais l'autre personne qui entrevoit cette réalité, c'est le serviteur. Et on imagine que ça lui donne de la sérénité. La même sérénité que celle d'Élisée. Moralité, avoir accès à cette réalité spirituelle, c'est une chance de passer du plan des hommes au plan de Dieu. Le troisième niveau de perception, c'est le niveau de perception mentale, c'est-à-dire le domaine de la représentation. C'est-à-dire l'interprétation qu'on fait des faits rationnels ou spirituels. C'est une sorte de traitement de l'information dans notre tête. Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, nous avons toutes sortes de filtres dans notre cerveau qui nous font réagir très différemment devant les mêmes événements. Dans une même situation, certains vont par exemple réagir avec leur peur, d'autres avec la colère, d'autres avec du cynisme, d'autres avec du sang-froid, avec de la méthode, d'autres avec compassion, d'autres vont fuir, d'autres vont pleurer. Ben, bref, ça va. Les différents types de réactions vont entraîner des actes. La manière dont on prend les choses est très importante, tout aussi importante que les faits eux-mêmes. C'est ce qui fait que pour une même situation ou un même mot, il peut y avoir une incompréhension presque totale. Par exemple, la laïcité ou certains conflits de personnes. La laïcité peut être comprise de manière totalement différente selon que vous parlez à un chrétien évangélique qui est pour la laïcité, hein, souvent, mais qui est pour une laïcité respectueuse des croyances de chacun, et par exemple un manque du gouvernement ou un prof, hein, finalement, qui va penser que finalement la laïcité, c'est le fait que les croyances religieuses doivent rester strictement dans le cadre privé. Et aussi, par exemple, dans le domaine des conflits, hein, on voit bien que souvent les conflits naissent de certaines incompréhensions et on n'arrive pas à se remettre d'accord parce qu'on avait compris ou on avait vécu les choses différemment. Et bien, dans notre passage, la représentation mentale la plus commune, c'est la panique. Le serviteur et le roi sont très surpris de voir l'armée ennemie et ils n'arrivent pas à gérer cette réalité. Cela les empêche de voir que tout est mené par Dieu. Et c'est quand même très embêtant. Mais d'un autre point de vue, ils se tournent naturellement vers le représentant de Dieu, Élisée. Et ils lui obéissent. Donc finalement, ils ont une très bonne réaction. Ces trois niveaux de perception, donc le terrestre, le céleste et la perception mentale, nous donnent donc plein de réactions possibles. On peut mener une vie sans vivre de miracles tout en croyant à la réalité spirituelle. Ou pas, et inversement. C'est la représentation mentale des événements qui va faire qu'on va croire ou non à la réalité céleste spirituelle. Et même si on croit à cette réalité céleste et spirituelle, c'est aussi la représentation mentale des événements qui va faire en sorte qu'on va tenir compte de cette réalité céleste dans la vie de tous les jours. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut s'apercevoir que dans le reste de la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, on a aussi pas mal de passages qui nous parlent de perception des choses, et notamment de cette représentation mentale des événements. Un premier passage se situe dans l'évangile de Jean au chapitre 9 avec cette histoire de l'aveugle qui a été guéri par Jésus. Et voilà, personne ne le reconnaît parce que personne ne s'attend à ce que cet aveugle voie de nouveau. Donc on a ses voisins qui, certains reconnaissent que c'est lui, mais d'autres n'arrivent même pas à reconnaître que c'est lui parce qu'ils n'arrivent pas à se faire à la réalité que cet homme a été guéri miraculeusement, mais surtout avec ce miracle de l'aveugle, on s'aperçoit que les pharisiens ne veulent pas croire qu'il ait jamais été aveugle, parce que pour eux, c'est pas possible que Jésus l'ait guéri un jour de sabbat. Et à la fin du passage, hein, dans Jean 9, on s'aperçoit que les vrais aveugles, ce sont les pharisiens. Et donc, on part d'un aveugle qui voit à des pharisiens qui croient voir, mais qui sont réellement aveugles. On peut continuer avec cet exemple des pharisiens, où on voit dans les évangiles, hein, l'hypocrisie des pharisiens, qui sont saints aux yeux du monde, mais coupables aux yeux de Dieu. Dans la réalité terrestre, ils ont l'air d'être très croyants, très pieux, très fidèles, mais dans la réalité céleste, aux yeux de Jésus, finalement, ils sont coupables. Nous avons aussi l'histoire des disciples d'Emmaüs à la fin de l'évangile de Luc, qui discutent avec Jésus, qui mangent avec Jésus, et on nous dit, Luc nous dit, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, il faudrait comprendre ce que ça veut dire, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, mais déjà, on peut être sûr qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Jésus soit ressuscité. Donc, c'est vraiment la première raison pour laquelle ils ne pouvaient pas le reconnaître, même si apparemment, quand il leur parlait, leur cœur battait très fort dans leur poitrine. Dans 1 Jean 3, dans la première lettre de Jean au chapitre 3, vous avez Jean qui dit à ses destinataires, « Voyez combien le Père nous a aimés. Voyez, voyez, rendez-vous compte, remémorez-vous tout ce que le Père a fait par preuve d'amour pour vous. Il a envoyé son Fils. Voyez-le, considérez-le, vivez-le. » Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul parle de cette espérance de la résurrection, en disant que si cette espérance n'est pas une certitude, alors notre foi est complètement vaine. Sachant bien sûr que la question de la résurrection, c'est une question de foi. On ne peut pas en être absolument sûr, vu que ça va se passer à la fin des temps. Mais l'apôtre Paul dit que si nous n'avons pas foi en cette réalité, si nous n'arrivons pas à nous projeter assez pour croire à cette réalité, eh bien, c'est même pas la peine de croire en Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit, vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Il vient juste de parler à la Samaritaine. La Samaritaine a mis sa foi en lui. Elle a été parlée à tout son village de Sichar. Et beaucoup de Samaritains ont mis leur foi en Jésus. Et là, Jésus dit ça à ses disciples. Il leur dit, mais ouvrez les yeux, regardez bien. Déjà, il y a plein de champs qui sont prêts à être moissonnés. Allez, c'est parti, faut annoncer l'évangile. Il y a plein de gens qui sont prêts à croire en moi. Encore un dernier passage dans le Nouveau Testament, et en fait c'est même pas un passage, c'est le résumé du livre de l'Apocalypse, où on a des chrétiens qui sont martyrisés à cause de leur foi, et on a l'ennemi, on a un dragon qui est assisté de 2 monstres, et ils ont l'air de triompher de ces chrétiens qui meurent à cause de leur foi en Jésus. Mais en fin de compte, dans l'Apocalypse, on voit la victoire de l'agneau et le salut pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Malgré la réalité cruelle, malgré la défaite visible, eh bien finalement, il y a une victoire au bout du compte pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui voient plus loin que la réalité. Mais j'aimerais finir avec un passage dans l'Ancien Testament qui nous parle le plus de la perception. C'est le passage d'Ésaïe 6 au verset 26 qui est repris par Jean, qui est aussi repris par Paul. Voici ce que Dieu dit à Ésaïe. « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurai guéris. » On pourrait résumer tous ces passages en disant que pour voir et comprendre l'action de Dieu, il y a besoin du Saint-Esprit. C'est bien sûr le cas dans la conversion, où on, grâce à l'action du Saint-Esprit, on comprend qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous. On comprend que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Et donc, nous mettons notre foi en Jésus pour être sauvés, pour plaire à notre nouveau maître. Mais c'est aussi le cas pendant tout le reste de la vie chrétienne. Il faut que Dieu, l'Esprit, fasse son œuvre en nous pour voir et pour comprendre l'action du Père. Car finalement, dans la Bible, ce qui aveugle, c'est le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Après ces passages du Nouveau Testament sur la vue et la perception, on peut aussi voir des passages du Nouveau Testament sur le traitement de l'ennemi. Et ça fait référence à la dernière partie de notre passage dans 2 Rois 6. Dans Colossiens 2 au verset 12, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa mort à la croix. » Tout comme Élisée a rendu totalement inoffensives les troupes syriennes, Jésus a désarmé les autorités spirituelles mauvaises. Les pouvoirs sous les ordres de Satan, il les a rendus inoffensifs, il les a désarmés et il les a donnés publiquement en spectacle, en les traînant dans un cortège triomphal, comme lors des triomphes romains où le général romain revenait à Rome en vainqueur et devant lui, il y avait les généraux ennemis qu'il avait vaincus, hein, qui étaient exposés devant tout le monde. Et à la fin, c'est généraux ennemis, il mettait, le général, hein, les mettait son pied sur leur tête en signe de domination et à la fin il les égorgeait, vraiment pour montrer finalement qu'il avait tout pouvoir sur eux. Et Jésus, sur la croix, a anéanti, hein, les œuvres du diable, alors pas encore totalement, mais il les a pour sûr anéantis et à la fin des temps il les anéantira totalement puisque le diable et tous ses acolytes finiront dans les temps de feu. Jésus a reçu tout pouvoir, comme Élisée avait reçu tout pouvoir sur l'armée syrienne. Le deuxième passage, c'est celui de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, qui est aussi repris par Paul dans Romains 12. C'est toujours la même parole qui nous dit de faire du bien à ses ennemis. Et du bien à ses ennemis dans un but d'être vainqueur du mal par le bien, d'être parfait comme le Père est parfait. Là encore, faire du bien à ses ennemis, ça veut dire regarder plus loin que la réalité terrestre. Ça permet d'avoir une attitude en profond décalage, mais efficace à tous les niveaux, c'est-à-dire grandir en sainteté et faire réfléchir les ennemis grâce à l'amour. Alors, au niveau des applications pratiques de ce passage, je pense que la première, c'est que toute proportion gardée, nous devrions être comme Élisée. Nous attendre à Dieu et regarder au-delà des apparences. Nous passons tellement de temps à nier les réalités célestes. Nous oublions tellement que Dieu est souverain sur tous les événements. Si vraiment nous étions plus attentifs aux réalités célestes, eh bien, nous ménagerions nos nerfs, c'est-à-dire que nous aurions moins de motifs d'être en colère, d'avoir peur. Nous prendrions plus de risques, puisque nous oserions faire des choses pour le Seigneur en sachant que, eh bien, lui ferait des choses aussi pour nous, puisqu'il est quand même capable de faire de grands miracles. Et enfin, nous serions plus sérieux au niveau de notre sanctification. Nous prendrions plus de risques pour plus plaire à Dieu. Nous ferions plus de sacrifices parce que nous aurions plus foi que Dieu nous ferait du bien, justement, grâce aux sacrifices que nous pourrions faire pour vouloir lui plaire. Pourtant, nous sommes au courant de la puissance de Dieu. Nous sommes au courant de ses promesses pour nous, ses enfants. comme nous ne voyons pas tous les armées d'anges nous environnant, nous n'osons pas agir. Pourtant, peut-être que si nous osions parler de notre espérance en Jésus à nos proches qui ne croient pas en lui, nous découvririons que leur cœur était déjà préparé par le Saint-Esprit et par d'autres personnes. Peut-être que si nous prenions le risque de progresser dans notre foi et d'affronter nos névroses diverses, nous découvririons la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Le second domaine d'application de ce passage, c'est l'attitude à avoir à l'égard des ennemis. La raison pour laquelle nous devons avoir une attitude différente à l'égard des ennemis, c'est que Dieu est aussi souverain sur eux, et que donc, ils sont soit déjà vaincus, soit ils seront bientôt chrétiens. En tout cas, si vous jouez une partie en sachant à l'avance que vous allez gagner, avouez que vous abordez la bataille dans un bon état d'esprit, non ? Le troisième domaine d'application, c'est notre manière d'appréhender les projets que nous faisons pour le Seigneur. Par exemple, un événement d'évangélisation, un peu ambitieux, comme un concert, comme un parcours alpha, quelque chose qui va prendre pas mal de temps et pas mal d'énergie. Et je pense qu'il y a trois façons d'aborder ce genre d'événement. Une façon peureuse, une façon ambitieuse, et une façon aussi qui cherche à voir tous les points positifs. La façon peureuse est une façon de voir les choses qui n'est pas très productive, parce que finalement, on pense à ce qui ne va pas marcher, à ce qui ne pourrait pas marcher, on pense à nos manquements, on pense aux choses qu'on n'a pas. Elle n'est pas vraiment géniale, cette manière de voir les choses, même si c'est bien aussi de voir les faiblesses d'un projet. Il y a une façon ambitieuse de voir les choses qui est peut-être un petit peu trop optimiste, qui dit voilà, bientôt on aura 4000 conversions, et donc du coup il va peut-être falloir prévoir un traiteur pour faire à manger tellement il va y avoir de monde. Alors peut-être que ça c'est une façon un petit peu trop optimiste de voir les choses, mais en même temps c'est aussi bien d'être ambitieux pour l'œuvre du Seigneur. Et il y a aussi la façon de voir tous les points positifs que pourrait avoir un projet, comme un concert, comme une soirée spéciale d'évangélisation, où on peut aussi voir en fait toutes les choses qui peuvent être bonnes à le faire. Et du coup, on a moins peur, d'organiser quelque chose, parce qu'on sait que même si on était trop ambitieux, ou si on était trop timoré, même si on sait que finalement il y a des choses qu'on a fait mal, eh bien, on sait que Dieu étant souverain, eh bien, il va faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et surtout selon son plan. Et du coup, ça donne une certaine sérénité face aux événements. Alors, en conclusion, si vous êtes disciple de Jésus, vous êtes du côté des gagnants. Vous êtes du côté du Seigneur de l'univers. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas avoir une attitude pessimiste. Vous pouvez bien sûr être pessimiste à propos de la nature humaine ou de la marche du monde, parce qu'elles sont souillées par le péché. Mais quant au plan de Dieu, pour vous et pour nous, en tant qu'Église, c'est hors de question. Alors, j'ai envie de dire, détendez-vous, Dieu est souverain.